Jour 3. Vous et la police de la parole. Lors d'une conférence universitaire, je m'emporte et une blanche me lance. Dites-moi ce que vous ressentez, mais ne soyez pas trop brutal, sinon je ne vous entends pas. Mais est-ce ma façon de m'exprimer qui l'empêche d'entendre, ou la crainte que sa vie puisse changer? Audre Lorde. Qu'est-ce que c'est? La police de la parole est une tactique employée par les détenteurs de privilèges pour museler ceux qui n'en sont pas dotés en se concentrant sur la forme plutôt que sur le fond. Il peut s'agir de modérer les propos des personnes noires autochtones et de couleur parce qu'elles sont trop en colère quand elles parlent de racisme ou de valoriser celles qui s'expriment de manière plus modérée, plus éloquente et apaisante que les autres. Dans les deux cas, les personnes racisées doivent se confronter au regard blanc, le prisme suprémaciste à travers lequel les détenteurs de privilèges voient les personnes noires autochtones et de couleur et se préoccuper du malaise de l'interlocuteur avec lequel elles abordent le sujet du racisme. Il est également important de noter que la police de la parole n'est pas forcément exprimée à voix haute. Les détenteurs de privilèges blancs tempèrent souvent mentalement ou en privé les propos des personnes noires, autochtones et de couleur, car ils savent que le faire ouvertement serait considéré comme un acte raciste. Cependant, ce que l'on pense intérieurement peut être tout aussi nuisible, si ce n'est plus, que ce que l'on dit tout haut. Les pensées intimes influencent ce que l'on exprime, intentionnellement ou pas. La police de la parole est très liée au racisme anti-noir et aux stéréotypes racistes, auxquels s'ajoute souvent du sexisme. Des sujets que nous explorons plus en détail au cours de la deuxième semaine de ce programme. Quand un blanc exprime sa colère, on considère souvent que c'est justifié, alors qu'un noir en colère est souvent perçu comme agressif et dangereux. Rien n'illustre mieux mon propos que le traitement réservé à la star du tennis Serena Williams, sur et en dehors du court. Au fil des années, Williams a été comparé à un gorille, a subi plus de contrôles antidopage superflus et de commentaires sur ses tenues que ses consoeurs. En 2018, pendant la finale de l'US Open qui l'opposait à Naomi Osaka, Williams a reçu des pénalités pour une série de fautes. Une décision qui suscita l'incompréhension de la joueuse et du public. Elle fut également sanctionnée pour insulte, après avoir traité l'arbitre de voleur. Comme le fait remarquer Crystal Fleming, maîtresse de conférences en sociologie et études de la diaspora africaine à Stony Brook University dans un article de Newsweek, voir la plus grande joueuse de tous les temps se faire reprendre par un homme mesquin abusant de son pouvoir était aussi déchirant que rageant, surtout pour une femme noire. Des joueurs comme James Blake et John McEnroe ont affirmé avoir dit des choses bien pires à des arbitres de chaise sans être pénalisés ou condamnés à une amende pour autant. Ce parti pris, à la fois implicite et explicite, sur lequel le professeur Fleming attire notre attention, n'existe pas seulement dans le monde du tennis professionnel, mais aussi à la maison, dans les établissements scolaires, les entreprises, les lieux de culte, sur Internet, et dans tous les lieux où la suprématie blanche s'exerce. Cela signifie que dans tous ces lieux, les personnes noires autochtones et de couleur sont constamment jugées, ou craignent de l'être, pour leur façon de s'exprimer. Comme l'écrit l'autrice Claudia Rankine, pour Serena, le rabaissement quotidien se fait à petit feu, un goutte-à-goutte permanent. Chaque regard, chaque commentaire, chaque erreur d'arbitrage éclot du fond de l'histoire à travers elle jusqu'à toi. Voir leurs paroles polissées ou envisager qu'elles le soient de manière explicite ou implicite épuise les personnes noires autochtones et de couleur. Afin d'éviter que les détenteurs de privilèges blancs ne les censurent, elles sont nombreuses à anticiper et à le faire elles-mêmes inconsciemment pour éviter d'avoir à être confrontées à de la fragilité blanche. En tant qu'autrice, je suis souvent assaillie par le doute quand j'essaye de communiquer. Est-ce que je donne l'impression d'être trop en colère, trop modérée? Si je m'exprime ainsi, mes lecteurs vont-ils réagir par de la fragilité blanche? Et ai-je les épaules pour gérer leur réaction? Si je m'exprime ainsi, mes lecteurs me préféreront-ils à d'autres militantes antiracisme parce qu'ils me trouveront éloquente? Et comment bien faire comprendre que je ne prends pas ce terme comme un compliment, que je le considère, les autres femmes noires et moi, que je nous considère, les autres femmes noires et moi victimes de racisme antinois? Les blancs sont souvent très choqués quand les personnes racisées décident d'arrêter d'édulcorer leurs pensées et d'exprimer toute la gamme de leurs émotions liées au racisme. Décontenancés et frustrés, les détenteurs de privilèges blancs se demandent d'où vient toute cette colère, sans se rendre compte qu'elle a toujours été là et que son expression marque le début de la réhabilitation de ces personnes. Comment la reconnaître? Quand, au cours des conversations sur la question raciale, les détenteurs de privilèges blancs pensent ou disent les choses suivantes aux personnes noires autochtones et de couleur, c'est qu'ils polissent leurs paroles. Réfléchissez au sujet du jour et rappelez-vous si vous avez déjà dit ou pensé ce qui suit. J'aimerais que vous vous exprimiez plus gentiment. Je ne peux pas assimiler ce que vous me racontez de votre vécu parce que vous semblez trop en colère. Vous êtes trop agressif. Je me sens incriminé en vous entendant employer ce langage pour parler de votre vécu. Vous employez un langage haineux ou clivant pour parler de votre vécu. Vous devriez être plus poli avec les blancs si vous voulez que nous adhérions à votre cause. Vous ne parlez pas de ce problème de manière constructive. Si seulement vous vous calmiez, j'aurais peut-être envie de vous écouter. Vous êtes trop négatif et vous devriez vous concentrer sur le positif. La police de la parole s'impose de multiples façons directes ou subtiles, et pas seulement au cours des conversations sur le racisme. Elle s'impose aussi quand vous jugez les personnes noires autochtones et de couleur parce qu'elles ne se conforment pas aux normes de communication blanche. Elles sont trop bruyantes, s'expriment en anglais vernaculaire afro-américain, ou leur façon de s'exprimer n'est pas conforme à l'anglais standard, etc. Pourquoi faut-il vous pencher sur la question? La police de la parole renforce la vision acceptable des personnes noires autochtones et de couleur imposée par la suprématie blanche. C'est une façon de les dominer et de les placer en position de faiblesse. Quand vous vous entêtez à dire que vous ne croirez pas ces personnes, que vous ne leur accordez ni crédit ni attention, tant qu'elles ne s'exprimeront pas d'une manière qui vous convient, vous perpétuez l'idée que vos critères de blanc sont supérieurs. Quand vous contrôlez le ton que les personnes noires autochtones et de couleur sont censées employer pour parler de leur expérience du racisme et de leur vécu, vous renforcez l'idéologie suprémaciste blanche selon laquelle les blancs savent mieux que les autres. Policer la parole des autres est une forme insidieuse de manipulation psychologique. On parle de gaslighting en anglais. Ce terme, inspiré par la pièce de théâtre de 1938 intitulée Gaslight, dans laquelle un homme baisse l'éclairage au gaz de sa maison et persuade sa femme qui a remarqué le changement qu'elle se fait des idées, définit une forme d'abus mental visant à manipuler une ou plusieurs personnes en les faisant douter de leur mémoire, de leur perception et de leur santé psychologique. Si vous le voulez bien, rappelez-vous avoir vécu ou imaginez-vous un événement violent et imaginez que l'on vous demande d'évoquer votre expérience sans exprimer la moindre émotion forte. C'est inhumain de toute évidence. Être humain, c'est ressentir des émotions. Demander à quelqu'un d'évoquer une expérience douloureuse sans exprimer sa douleur, c'est lui demander de se comporter comme un robot. Quand vous insistez pour que des personnes noires, autochtones et de couleur parlent de leurs expériences douloureuses du racisme sans exprimer de douleur, de rage ou de chagrin, vous leur demandez de se déshumaniser. Policer notre parole équivaut à nous demander à nous, personnes racisées, de partager notre vécu sans partager nos véritables émotions à ce sujet, et de faire en sorte de ne pas mettre les blancs mal à l'aise. Quand vous aurez compris comment vous policez la parole des personnes noires, autochtones et de couleur, vous pourrez commencer à modifier votre comportement pour leur permettre d'exprimer toute leur humanité. Piste d'introspection pour votre journal. Question 1. Avez-vous ouvertement policé la parole de personnes noires, autochtones et de couleur pour les museler, les neutraliser ou disqualifier leurs propos? Expliquez comment. Quel mot avez-vous employé pour définir le ton qu'une personne noire, autochtone et de couleur devrait adopter? Question 2. Même si vous ne l'avez pas exprimé ouvertement, avez-vous eu envie de policer les propos des personnes qui parlaient de racisme ou de leur vécu? Expliquez ce que vous avez pensé. Question 3. Avez-vous détourné certaines conversations sur la question raciale en vous focalisant sur la façon dont votre interlocuteur s'adressait à vous plutôt que sur le sujet abordé? Expliquez comment. Avec le recul, pourquoi la forme primait-elle sur le fond à votre avis? Question 4. Combien de fois avez-vous subordonné votre volonté de vous impliquer dans le militantisme antiraciste au fait que les gens vous parlent sur un ton adéquat? Question 5. Avez-vous ignoré la souffrance réelle des personnes racisées parce que leur manière d'en parler ne correspondait pas à la façon dont on doit s'exprimer selon vous? Expliquez comment. Question 6. Avez-vous ignoré les personnes noires, autochtones et de couleur en général à cause du ton sur lequel elles s'expriment? Expliquez comment.